Chapitre 14.
Mon Dieu, quel malheur! La pauvre enfant! Qu'a-t-il pu lui arriver? Oui, certes, j'y vais. Oh, j'y vais tout de suite, je ne peux pas l'abandonner, elle est si seule. Ainsi monologuait, tout en rangeant les objets de toilette dans un sac de voyage, l'excellente Mademoiselle Varlet, toute bouleversée par une lettre qu'elle venait de recevoir de Marguerite Duplan, et dans laquelle celle-ci, après avoir expliqué en quelques mots le départ de Max, priait son institutrice de venir s'installer auprès d'elle. Mademoiselle Amélie partit une demi-heure plus tard. À son arrivée à la villa Bonabri, elle trouva un triste spectacle et comprit que sa présence auprès de son ancienne élève ne serait pas inutile. Marguerite raconta du mieux qu'elle put la funeste histoire de la vieille amie qu'il écouta avec plus d'anxiété qu'elle ne voulut. Quand il eut terminé, elle laissa sa tête retomber sur l'oreiller et fondit en larmes. Pour un peu, Mlle Varlet en eût fait autant. Elle se ressaisit cependant la première et murmura gravement « Mon enfant, je conviens que vous êtes en bien malheureuse, mais tout ceci ne me paraît pas irréparable. Vous me dites vous-même que M. Dupin est un innocent. C'est une grande consolation. Songez à ce que vous éprouveriez si vous le saviez coupable. Oh, mais j'en mourrais, je vous dis. Mais il n'est pas question de mourir, mais d'agir. Il faut d'abord aider votre mari à sortir de cette aventure. Ensuite, vous aviserez ensemble à réparer le mal. Oh, mais s'il n'y avait que la question d'argent, mais qu'y a-t-il de plus ? Et avec de nouvelles larmes, l'épouse désolée livra le douloureux secret qui l'étouffait. Max ne l'aimait pas, ne l'avait jamais aimé. Il en aimait peut-être même une autre. À cette révélation, l'innocente demoiselle resta complètement désorientée. Mais d'abord, comment un homme pouvait-il ne pas aimer une femme aussi charmante que Marguerite ? Il fallait pour cela être ou fou ou quelque chose d'approchant. La vieille fille était indignée. Mais pour l'instant, l'indignation ne servait à rien. Il fallait avant tout aider et encourager la victime. « Mon enfant, reprit la sage conseillère, tout ce que vous me dites là est une cause, une peine infinie, mais soyez courageuse. C'est dans la douleur que la vertu est nécessaire. En somme, vous n'avez rien d'absolument grave à reprocher à votre mari. Bon, il a été négligent, un peu affectueux envers vous. Mais vous convenez vous-même que cette humeur bizarre était peut-être causée par des ennuis d'affaires. Il faut lui pardonner. J'ai été d'une patience angélique, je n'ai jamais réclamé, je n'ai jamais fait d'observation, sanglota Marguerite. Mais continuez, ma chérie, vous en serez récompensée. Quand vous aurez sauvé votre mari, que vous lui aurez donné un fils, et qu'il retrouvera auprès de vous la douceur d'un foyer honnête, je suis sûr qu'il vous reviendra tout à fait, et qu'il vous aimera pour toujours. Non, je ne peux pas le croire. Mais si, sans cela, il serait un monstre. Voyons. Abordons les questions pratiques. Qu'allez-vous faire ? Bien, il faut que je tâche de réunir une vingtaine de mille francs, m'a dit mon oncle, Verdier. Pour cela, je vais vendre quelques bibelots anciens que je possède et des bijoux. Cela me fera de la peine, car ce sont des souvenirs de ma reine, mais je n'ai pas d'autre moyen. Je me procurerai ainsi 10 ou 12 000 francs auxquels j'ajouterai les revenus que je vais toucher dans quelques jours. Avec cette somme que je donnerai comme caution, j'obtiendrai la liberté provisoire de Max. Vous ne pouvez pas aller à Paris demain, Marguerite. Oh, si, si, il faut que je voie Max d'abord. Il croirait que je l'abandonne. J'irai en même temps chez un antiquaire que je connais pour lui montrer mes miniatures et lui demander de venir estimer les meubles que je désire vendre. Le lendemain, de bonne heure, Marguerite se mit en route courageusement. La visite qu'elle fit à son mari dans le parloir de la prison fut horrible. Elle trouva Max sombre, morne, découragé, sans idées, sans espérance, dégoûté de tout, et particulièrement de lui-même. Ces quelques jours d'emprisonnement avaient eu un effet physique déplorable sur le jeune homme habitué au grand air, aux exercices violents. Il était en proie à une neurasthénie noire. La pauvre Marguerite était elle-même trop émue, trop nerveuse, trop mal disposée aussi, pour démêler la vérité et deviner la tendresse qui palpitait sous l'attitude raidie et l'apparente froideur de son mari. Ils se séparèrent ce jour-là encore, sans avoir eu le courage de pousser le cri sincère qui les eût jetés si heureux dans les bras l'un de l'autre. Après une fastidieuse discussion avec le brocanteur, Madame Duplan aborda la troisième station de son calvaire, qui certes ne fut pas la moins pénible. Elle se rendit chez les Letuel. Jeanne, selon son habitude, poussa des cris aigus, suivis de lamentations sans fin. Après avoir entendu pendant une demi-heure ces jérémiades et ces insinuations malveillantes, Marguerite, excédée, se leva, signifia à sa sœur qu'elle ne pourrait plus payer désormais la pension de ses neveux, puis sortit en déclarant qu'elle ne remettrait plus les pieds dans cette maison où l'on insultait à son malheur. Elle reprit le train immédiatement et arriva chez elle vers 6 heures. Là, une nouvelle épreuve l'attendait, plus douloureuse encore que toutes celles qui lui avaient été imposées ce jour-là. Devant sa porte, elle trouva l'automobile de M. de Prévillac. Le baron était dans la voiture, en proie à une impatience, à une angoisse indescriptible. Lucien se bourrait. Depuis 3 jours, l'état du petit malade avait subitement empiré, et le matin même, le docteur n'avait pas caché à son père que c'était la fin. Vous comprenez dans quel chagrin est plongée sa mère, balbutia le pauvre homme, dont le bon visage, habituellement si réjoui, avait une touchante expression de désolation. Lucien vous réclame jour et nuit, mais pour ne pas contrarier ma femme, je n'ai pas osé venir vous chercher plus tôt. Oh, pourquoi? Oh, vous êtes bonne, ma chère enfant. Mais je sais néanmoins que vous n'avez pas eu à vous louer de votre belle-mère. Et j'ai hésité jusqu'au dernier moment. Mais maintenant, mon fils est perdu. Je veux lui donner la satisfaction qu'il réclame. Pouvez-vous, voulez-vous venir? Ah, c'est peut-être bien imprudent, objecta Mademoiselle Varlet. Elle est si fatiguée. Regardez-la, monsieur. Non, 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 j'y vais, déclara la jeune femme tout en larmes. Rester me ferait plus de mal encore. Partons vite. Ne vous présentez pas, ma chère demoiselle. L'auto me ramènera. 20 minutes plus tard, Marguerite rentrait dans cette maison d'où elle était sortie, le cœur brisé, si peu de temps auparavant. La main de Dieu s'était-elle donc appesantie si vite sur l'orgueilleuse baronne pour la punir de s'être montrée si dure envers sa belle-fille? La jeune femme monta l'escalier et entra directement dans la chambre du malade. Madame de Prévillac était là, assise auprès de son fils, blême, morne, glacée. À l'approche de la visiteuse, elle se leva pour lui laisser la place au chevet du lit. Marguerite, apitoyée par son attitude douloureuse, s'avança vers elle et commença doucement. Ma mère. Oh, Marguerite, c'est vous. Enfin. L'interrompit la voix de l'enfant. Oh, quel bonheur, vous êtes là. Donnez-moi la main. Oh là, je suis content. Je vais mourir bientôt, mais ça ne fait rien, puisque vous êtes ici un peu à notre petit Lucien, vous m'oublierez. Mais non, non, mon cher petit, sanglota Marguerite bouleversée, vous n'allez pas mourir. Si, je le sais. Ne pleurez pas, ma chère grande sœur, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Oh, je suis un enfant, c'est vrai, mais on comprend bien des choses quand on va mourir. Max est en prison, n'est-ce pas? Elle vous a fait bien du chagrin. Mais non, mon enfant, mais non, quelle idée! Qui vous a dit cela? Oui, je l'ai entendu. Oui, il vous a fait du chagrin, mais il vous aime, j'en suis sûr. Je l'ai vu dans ses yeux quand il vous regardait. Pardonnez-lui, aimez-le, sauvez-le, promettez-le-moi, jurez-le pour que je m'en aille tranquille. Je le jure. Bien, alors je suis content maintenant. Oh, j'avais si peur que vous ne puissiez pas venir. Pas venir, oh Lucien, mais moi qui vous aime tant. Moi aussi je vous aime, ma grande sœur. Embrassez-moi. Dites bien à Max que mon plus ardent désir est que vous soyez heureux ensemble. Épuisé par cet effort, le moribond se tut. Il resta longtemps sans bouger, respirant à peine. Puis, vers 10 heures, il entra en agonie. 1 heure après, il rendit le dernier soupir, sa pauvre petite tête posée sur l'épaule de Marguerite. Quand tout fut fini, la jeune femme se releva, brisée, anéantie. Puis, dans un élan de bonté, de pitié, oubliant toutes ses rancunes, elle alla vers sa belle-mère et voulut lui prendre les mains pour l'embrasser. La baronne, qui venait de voir mourir son fils sans pouvoir verser une larme, avait des yeux fixes de folle. Elle repoussa avec violence la douce étreinte et cria d'une voix tremblante de colère: « Allez-vous-en, enjôleuse, voleuse! Vous m'avez pris le dernier soupir de mon enfant. Allez-vous-en, je vous hais. Sortez, sortez. Mais ma mère, revenez à vous, gémit Marguerite épouvantée. Lucien, qui vous adorait, a voulu vous épargner une trop grande émotion. Songez que je l'aimais tant moi-même. Vous ne pouvez pas m'en vouloir de cela. Allez-vous-en, hypocrite. Lucien vivant vous a donné son dernière pensée. Mort, il m'appartient. » Le baron, affolé par cette scène affreuse, saisit la jeune femme par le bras et l'entraîna hors de la pièce. « Pardon, ma pauvre enfant, balbutia-t-il. Ma femme ne sait plus ce qu'elle fait. Elle est cruellement injuste envers vous, que vous êtes montrée si généreuse. Mais songez que c'était son fils et qu'elle l'aimait par-dessus tout. Oui, par-dessus tout. Pourtant, elle a encore une fille et un autre fils. Mais celui-là, elle le hait. Pourquoi? Oh, c'est cette haine injustifiée, inexplicable, qui lui corrode le cœur et la rend méchante. Je la plains, je lui pardonne en souvenir de celui qui n'est plus. Et par amour pour le petit enfant qui va venir. Mais je ne veux pas rester 1 minute de plus sous ce toit. Faites-moi reconduire chez moi immédiatement. Oh, ma fille, en pleine nuit! Non, ça ne fait rien. Je me sens très fatigué. Je désire rentrer au plus tôt. Quand l'automobile stoppa devant la grille du chalet du Bon Abri, Mlle Varlet, qui attendait dans une grande anxiété le retour de Marguerite, se précipita à la porte, suivie de la dévouée Marie. Elle aida la jeune femme à descendre de voiture, à monter jusqu'à sa chambre et la coucha sans que celle-ci prononçât un mot. Elle était complètement anéantie. Pendant 2 jours, Marguerite resta ainsi, presque inconsciente, comme elle eût été entre la vie et la mort. Enfin, au bout de ce temps, le fils de Max fit son entrée dans le monde, et à son premier cri, fit oublier à la maman tout ce qu'elle avait souffert jusque-là. Chapitre 15. La fenêtre grande ouverte laissait pénétrer le soleil à plein rayon avec le parfum des fleurs qui embaumaient le jardin. Marguerite, qui était couchée dans son grand lit tout blanc, était encore bien pâle et bien faible. Mais l'expression de son visage révélait une joie profonde, absolue. Le sentiment maternel avait effacé chez elle tous les autres soucis, toutes les autres préoccupations. Malgré les événements tragiques qui avaient précédé sa naissance, le fils de Marguerite était un solide gaillard, bien constitué, très décidé à vivre et doué de robustes poumons. Mademoiselle Varlette s'était constituée la gardienne de la mère et de l'enfant. « Chère mademoiselle, lui dit la troisième jour Marguerite, puisque je suis beaucoup mieux, je voudrais vous demander encore un service. Et quoi donc, mon enfant ? Oh, mais je suis toute prête, si c'est en mon pouvoir. Eh bien, ce serait d'aller voir mon mari. Moi ? Mais ça ne lui fera aucun plaisir, je pense. Si, songez qu'il ne sait pas encore qu'il a un fils, depuis 3 jours. Non, je n'ai pas voulu lui écrire. J'aime bien que vous y alliez. Vous vous expliquerez tout ce que j'ai fait. Vous lui parlerez de la mort de Lucien. Vous lui direz combien j'ai souffert, mais que je vais bien maintenant. Que je le supplie de se défendre et que j'enverrai bientôt à mon oncle Verdier tout l'argent que je pourrai réunir et que l'on fera sortir les émarches pour obtenir sa mise en liberté sans caution. Je vous prie, allez, cela me fera tant de plaisir. Eh bien, j'y vais, ne vous tourmentez pas. Marie restera auprès de vous. Oui, je n'ai besoin de rien. Merci, incomparable ami. Mademoiselle Varlette avait accepté la commission sans beaucoup d'enthousiasme, mais elle n'avait pas voulu contrarier la jeune femme qu'elle trouvait déjà suffisamment éprouvée. Elle connaissait Max à peine, et en elle-même, elle lui en voulait de toutes les peines qu'il avait causées à sa femme. Elle s'attendait à trouver un homme léger, indifférent, égoïste, et s'apprêtait à lui faire la communication dont elle s'était chargée, et puis à sortir au plus vite. Sa surprise fut très grande. Au premier mot qu'elle prononça sur le danger qu'avait couru Marguerite la veille, et demoiselle vit un Max affolé, sanglotant, prenant les mains de la visiteuse, ahurie et balbutiant des phrases sans suite. « Ah, ma chère Marguerite, ma bien-aimée, elle serait morte sans que je la revoie. Et nous avons un fils depuis 3 jours. Oh, j'en savais rien. Mon Dieu, quel fou j'ai été. Ma chère femme, me pardonnera-t-elle jamais ? Oh, quand je pense que je suis prisonnier, que je ne peux courir à elle. Oh, mademoiselle, vous qui l'aimez tant, dites-moi la vérité. Elle me déteste maintenant, n'est-ce pas ? Voyons, calmez-vous, conseilla la bonne Amélie attendrie. Je vous ai appris la nouvelle un peu brutalement, mais j'avoue que je ne vous voyais pas si sensible. « Mais jusqu'à présent, j'étais fou, répondit le jeune homme. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais j'adore ma femme. Je l'ai adorée du jour où je l'ai connue. Mais je ne le savais pas. Quel aveuglement. Et maintenant, comment réparer, effacer le passé? Marguerite n'a plus confiance en moi. Elle ne pourra plus m'aimer, jamais. Oh, j'aime mieux mourir. » Mademoiselle Varlette se mit à rire. L'aveu spontané de Max lui était allé au cœur. « Allons, vous aussi, dit-elle gaiement, vous voulez mourir. Mais j'ai entendu la même antienne il y a quelques jours dans la bouche de votre femme. C'est curieux, comme des gens qui ont cependant bonne envie de vivre partent facilement de mourir. Engagé sur ce ton d'amicale confiance, la conversation se poursuivait longtemps. Max avait fait tant de choses à demander, il ne pouvait pas se lasser d'ailleurs d'entendre sa nouvelle amie lui parler de sa femme et de son fils. La vieille demoiselle sortit de la prison enchantée. « Quel bon garçon tout de même !» se disait-elle en cheminant vers la rue Gare-Saint-Lazare. « Et comme elle aime, il aime Marguerite. Qu'elle va être contente ce soir, ma petite chérie !» La petite chérie, en l'absence de sa gardienne, avait reçu de son côté une visite. Visite étrange, anormale, extraordinaire, à laquelle il lui était impossible de s'attendre. À 3 heures, Marie entra dans la chambre de sa maîtresse et lui dit « Madame, il y a en bas une dame qui désire parler à madame. J'ai dit que madame était encore trop souffrante pour recevoir, mais cette dame a insisté et a déclaré qu'elle avait quelque chose d'urgent à communiquer à madame. Comment est-elle, cette personne? Comment s'appelle-t-elle? Oh, c'est une dame bien, un peu peinte, par exemple. Mais elle a dit que madame ne devait pas connaître son nom, qu'elle s'appelait mademoiselle Léa Perret. Léa? Vous dites Léa? Oui, madame. Marguerite hésita une minute. Puis, soudain, elle se souvint. Cette femme était celle dont parlait la lettre trouvée dans le pyjama. Oh, c'était l'occasion d'éclaircir ses doutes. « Faites-la monter, » dit-elle à la bonne. « Donnez-moi mon fils et restez dans la pièce à côté. » 2 minutes plus tard, les deux femmes étaient en présence. Il y eut d'abord un silence pénible. Marguerite, la première, reprit conscience de la situation et demanda « Que désirez-vous, mademoiselle ?»« Madame, » balbutia la chanteuse légèrement embarrassée, « je fais auprès de vous une démarche que vous allez peut-être juger bizarre. Mais je pars pour un long voyage pour des pays lointains dont on ne revient pas toujours. » Et je ne voudrais pas laisser une mauvaise opinion de moi au seul être bon et désintéressé que j'ai trouvé sur ma route, au seul ami sincère que j'ai eu. Et cet ami est votre mari, madame. Ah bon, mari est votre ami? Il l'était, et jamais on a vu un ami meilleur, plus dévoué, plus délicat. Combien de fois a-t-il aidé mon pauvre père pendant les mauvais jours? Depuis son mariage, je ne l'ai plus revu. Jamais? Vous ne l'avez jamais revu depuis son mariage? Interrogea Marguerite haletante. Non, jamais. Mais pourquoi êtes-vous si émue? Ah, je vois. Vous connaissiez mon existence et vous avez été jalouse. Mais qui donc vous appuie ces idées-là en tête? Ce misérable bois léger, peut-être? Quelle folie! Vous le connaissez aussi, celui-là? Oh, si je le connais! Fit Léa avec amertume. Hélas, oui. Sans lui, j'aurais peut-être tourné tout autrement. À la mort de mon père, c'est lui qui m'a poussé à faire du théâtre, en affirmant que la fortune et la gloire m'attendaient. Quel duperie! Maintenant, il faut que je suive la route que j'ai choisie. Mais je ne suis pas venu pour vous raconter mon histoire. Si, 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 continuez, je vous écoute. Non, j'étais venu pour vous dire simplement ceci. Bois léger, après avoir entraîné Max dans cette sale affaire de mine, a disparu en emportant ce qui restait de l'argent souscrit. Ce n'est pas étonnant de sa part, il est capable de tout. Mais sachez-le bien, je ne suis pour rien dans cette vilainie. En apprenant mon départ, Max aurait pu supposer que j'étais complice de Bois Léger, et cela je ne le veux pas. Mademoiselle, répondit Marguerite assez émue, votre commission sera faite Mon mari saura la vérité. Vous partez bientôt? Après-demain. Mais avant de me retirer, je tiens à vous remercier, madame, de m'avoir reçue et écoutée. Je savais que vous étiez très bonne. Je suis contente de vous avoir vue. Oh, je suis sûre à présent que mon ami, à une femme comme vous, ne peut pas faire autrement que d'être heureux. C'est une grande consolation pour moi. Vous aimiez beaucoup Max, mademoiselle? Oui, mais je l'aime davantage maintenant, maintenant que je connais les autres hommes. C'est pourquoi je désire tant qu'il soit récompensé de sa bonté. Adieu, madame. Mademoiselle, moi aussi, je veux vous dire quelque chose, murmura doucement Marguerite. Approchez-vous et donnez-moi la main. Moi aussi, je veux vous dire merci. Votre visite, en effet, m'a délivré d'un coup cruel et d'une leçon qui risquait d'empoisonner ma vie. Merci de vos déclarations si loyales. Moi aussi, je désire que vous soyez heureuse. Ce n'est pas impossible, vous êtes jeune. La chanteuse esquissa un geste de lassitude et montrant la petite tête noire que faisait la tête du bébé sur l'oreiller blanc, balbutia « C'est votre enfant ?»« Oui, » dit orgueilleusement la mère, « c'est le fils de Max. Embrassez-le en souvenir de son père. » La pauvre Léa prit maladroitement dans ses mains inaccoutumées un pareil fardeau, le petit être qui représentait toutes les félicités qu'elle n'avait pas, et l'embrassa timidement. Pendant que d'roses grosses larmes coulaient sur ses joues. Puis elle posa l'enfant sur le lit et s'en alla sans ajouter un mot. Quand Mademoiselle Varley rentra, elle trouva sa malade transformée. Ce que la vieille demoiselle raconta de sa visite mit le comble à la joie de la jeune maman. Tout ce qui la séparait de son mari avait disparu. Désormais, Marguerite pouvait croire et espérer. N'est-ce pas tout le bonheur de la vie? Sans doute, il restait devant elle des obstacles matériels, des soucis d'argent. Mais qu'était-ce que tout cela, en comparaison de la torture morale dont elle était maintenant délivrée? La courageuse femme devait bientôt d'ailleurs voir disparaître les dernières difficultés. 2 jours après la visite de Léa Perret, Marguerite vit entrer dans sa chambre le baron de Prévillac en personne. Le pauvre homme était vieilli de 10 ans, mais une expression de joie animait son regard. « Ma fille, dit-il affectueusement, oh, je vous apporte une bonne nouvelle. Votre mari est libre. »«
Libre? Comment cela? Par quel prodige? »
« Allons, soyez sage, ne vous agitez pas. » murmura paternellement le baron. Oh, ce prodige est bien simple. Ma femme a réfléchi depuis l'autre jour et a compris toute l'horreur de sa conduite envers vous. Et quand elle a su la naissance de votre enfant, elle s'est attendrie tout à fait. Et n'osant pas se présenter devant vous, elle a versé la caution pour Max et obtenu son élargissement. Voudrez-vous la recevoir, ma fille? Oh, elle a bien souffert.
Mais qu'elle vienne et qu'elle soit la bienvenue, puisqu'elle me ramène mon cher mari.
Quelques instants plus tard, Max, à genoux près du lit de sa femme, couvrait de baisers et de larmes le visage radieux de sa bien-aimée et la petite tête ébouriffée de son fils. Les premières effusions passées, le jeune homme prit le bébé et, le posant sur les genoux de sa mère, qui s'était tristement assise dans un coin, lui dit « Voilà un autre Lucien, ma pauvre maman. Voulez-vous l'aimer un peu en souvenir de mon cher petit frère? Nous avons tous tant chéri. J'espère qu'il vous donnera moins de soucis que son père. »
« Tais-toi, Max, » balbutia madame de Prévillac. « Ne me parle plus du passé. Oui, j'étais coupable, je le sais maintenant. Dieu m'a puni. Désormais, nous vivrons unis et heureux. C'est le dernier vœu de mon cher petit. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour qu'il soit exaucé.